Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Et nous allons faire une étude ce soir au sujet du fatalisme. C'est quelque chose que j'ai envie d'aborder avec vous. Voilà, je vais baisser peut-être un peu la musique, je ne voudrais pas que ça vous distresse trop. Attendez voir. Voilà, je coupe ça. On va lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 13. Éphésiens 6, verset 13. C'est l'apôtre Paul qui nous parle et qui dit « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Alors, prenez, n'est-ce pas, toutes les armes de Dieu. Comme j'ai eu souvent l'occasion de vous le dire, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait plus de 70 pays dans ma vie et je suis ravi, j'ai rencontré des gens tellement différents, avec des croyances tellement différentes. Mais j'ai constaté une chose incroyable partout dans le monde, que les gens soient animistes, chrétiens, de confession judaïque, musulman, bouddhiste, je sais pas moi, athée, agnostique ou n'importe quoi, quand quelque chose leur arrive, ils disent tous « c'était écrit ». Voilà. Prions. Seigneur, je te demande de me donner les mots pour que mes frères et sœurs comprennent et qu'ils ne soient pas dans cette erreur du fatalisme, mais qu'ils se servent de toutes les armes de Dieu pour pouvoir remporter des victoires, résister dans les jours mauvais. Merci Jésus. Amen. Le fatalisme, c'est vraiment un truc. Moi, je dis que c'est un truc qui aide les gens à baisser les bras, en fait. Vous savez d'où ça vient ? Enfin, du moins que je sache, ça vient de la culture grecque. Les stoïciens, par exemple, ils ont trouvé ce truc pour aider les gens à supporter le poids du destin, les difficultés qu'ils pouvaient vivre. Et puis, il y avait un homme qui s'appelait Hérodote qui enseignait ça. Il vivait au 5e siècle avant Jésus-Christ et il avait un de ses collègues qui vivait en même temps que lui et qui contestait sa doctrine. Et il s'appelait Thucydide. Et ce monsieur Thucydide, il a été, à ma connaissance, peut-être je connais pas tout, mais à ma connaissance, il a été le premier à oser dire « Non, c'est faux ». Ce qui est vrai, par contre, c'est que l'existence est imprévisible. Voilà ce que je dis toujours. Très souvent, je dis, mais ça fait partie des impondérables. C'est comme ça. Voilà. En fait, il avait raison parce que Dieu nous a donné des pouvoirs. Par exemple, celui de prendre des décisions. Il nous demande d'avoir de la sagesse. Pourquoi ? Pour qu'on puisse prendre des décisions. C'est aussi une arme de Dieu, ça. La sagesse. Et la chance ou la malchance sont bien souvent les conséquences de nos propres choix. Ce qu'on appelle la chance ou la malchance. Alors en grec, il y a un mot qui est, encore une fois de plus, à ma connaissance, intraduisible en français, c'est le mot « kéros ». Ce mot, il peut signifier le bon moment, ou l'occasion, ou l'opportunité. J'ai lu ce matin, dans le journal, l'histoire d'un homme qui se nommait John Templeton. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. En 1939, au moment où Hitler a attaqué l'Europe, John Templeton a mis $100 dans chaque action qui coûtait moins de $1. Et il a donc investi $10 400, comme ça. 4 ans plus tard, il a revendu ses actions pour plus de $40 000. Il a vu le bon moment où il fallait le faire. C'est triste. C'était toute cette histoire de guerre et tout ça. Il a investi à ce moment-là et puis ça a marché pour lui. C'est un petit peu comme Cal dans le film À l'Est d'Eden qui investit dans les haricots pour pouvoir gagner de l'argent pour aider son père. Il a trouvé le bon moment pour le faire. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est excellent. À l'Est d'Eden, il faut voir ce film, il est très beau. Et puis alors ce monsieur John Templeton, il a continué à faire comme ça, et il a fini par devenir un milliardaire. Il ne faisait rien que ça. De trouver le bon moment pour investir dans des trucs qui étaient très bas, sachant qu'elles ne pouvaient que remonter. De temps en temps, il y avait un échec, c'est sûr, il y a toujours un risque, mais voilà. Sa façon de faire est appelée, dans le milieu de la finance, le moment Templeton. Il avait compris un truc, il avait compris comment saisir sa chance, c'est-à-dire le bon moment. Il y a des bons et des mauvais jours, il y a des bons et des mauvais moments, comme on l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens. Je vous relis Éphésiens, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. Voyez, il y a bien des jours mauvais, il y a des jours mauvais. J'ai un ami qui se trouve en ce moment à Toulouse, à l'hôpital. J'ai fait sa connaissance quand moi-même j'y étais. Et il devait se faire opérer le 16 avril. Et il était tout content, donc le jour avant, il me téléphone pour que je prie pour lui, que l'opération se passe bien et tout. Et le lendemain, il me rappelle, il me dit, ben écoute, les médecins se sont réunis, et après avoir fait des analyses de sang, ils ont décidé d'attendre 15 jours parce que c'est pas le bon moment. J'ai des, je sais plus quoi, dans le sang, quelque chose qui, en fait, qui le rendait trop faible, et ils ont dit, dans 15 jours, vous aurez repris des forces et on pourra vous opérer. Mais là, c'est pas le bon moment. Les médecins ont fait un diagnostic. John Templeton a fait aussi des diagnostics. Et c'est ce que nous devons faire, mes frères et sœurs. Analyser la situation dans laquelle nous sommes. Regarder, observer tous les éléments possibles. Il faut mettre ces éléments en relation les uns avec les autres, se poser les bonnes questions, et ensuite agir ou pas. Est-ce qu'on le fait maintenant ou on attend un bon moment? Est-ce que ça n'est pas encore maintenant le bon moment? Vous voyez, le mot kéros signifie l'occasion, l'opportunité, le bon moment. Jésus lui-même nous dit de faire ça. On va lire dans Luc chapitre 14, verset 28-32. Jésus dit, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Ah, cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. » Et Jésus continue, il dit « De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors, eh bien, si l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. » La sagesse, réfléchir, s'asseoir et réfléchir. Vous voyez, il ne faut pas toujours mettre la faute sur pas de chance, ou la faute sur le diable, ou Dieu n'a pas voulu, ou Dieu a voulu. Ça, c'est quelque chose de très africain. J'étais frappé les premiers temps, quand j'allais là-bas, d'entendre des gens disant « Ah ben Dieu l'a voulu ». Il y a des paramètres à analyser qui peuvent faire changer les choses, les situations, l'état de santé, etc., etc. Il y a une sœur avec laquelle je corresponds, il y en a beaucoup, hein, je vous ai déjà dit, je passe à peu près 2 heures par jour pour répondre aux questions qu'on me pose sur Révélation Bible ou aux insultes des fois. Là, aujourd'hui, j'ai encore bloqué 6 personnes. Enfin bon. Alors, il y a une sœur avec laquelle je corresponds et elle me disait que ce matin qu'elle ne croit pas dans la Bible. Elle dit qu'une fois, elle en a acheté une et qu'à partir de là, elle a commencé à avoir la poisse. Vous savez ce que c'est que la poisse. Donc, elle l'a jetée. Elle a fait une relation entre le fait d'avoir acheté cette Bible et d'avoir la poisse là à peu près en même temps, en même temps. Donc, elle a fait un lien sur cela. C'est un peu maigre. On ne peut pas faire des analyses sérieuses avec si peu de données. Je lui dis, mes sœurs, vous ne pouvez pas dire que je ne crois pas dans la Bible. Vous ne sauriez rien au sujet de Jésus si vous n'aviez pas la Bible. Vous ne pouvez pas dire j'aime pas la Bible. C'est grâce à la Bible qu'on sait que Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Vous pouvez pas. Elle reste un peu bloquée là-dessus, mais je pense qu'elle va changer d'avis parce que c'est pas. Elle est intelligente. Et elle a eu juste un malheur là. La Bible nous enseigne partout que nous devons avoir au moins 2 ou 3 témoins pour vérifier si une chose est bonne ou pas, à faire ou pas. Je vous donne quelques versets, vous irez les chercher vous-même. Hein. Matthieu 18, 16, Deutéronome 19, 15, 2 Corinthiens 13, 1, Deutéronome 17, 6, 1 Timothée 5, 19 et il y en a encore plein d'autres. Donc, 2 ou 3 témoins, 2 ou 3 éléments qui prouve qu'une chose est vraie ou pas. Nous avons une intelligence. C'est Dieu qui nous a donné l'intelligence. La Bible dit que l'intelligence est un don de Dieu. Nous devons donc l'utiliser. En toute chose, il nous faut réfléchir. La Bible nous y invite. Si elle nous y invite, c'est bien qu'il n'y a pas de fatalisme. C'est qu'on peut réfléchir et faire des choix. Non ? Bien sûr. C'est que nous avons donc le pouvoir de faire changer les choses, le cours des événements, par des décisions prises avec sérieux, avec 2 ou 3 témoins, avec au moins 2 ou 3 éléments. Vous voyez ? Mes ancêtres étaient des Gaulois. Mes ancêtres, les Gaulois, ils vivaient à Grenoble et ils ont appris... qu'ils étaient recherchés par les autorités du roi Louis XVI, au moment, vous savez, où il y avait la persécution religieuse. Ils ont massacré énormément de protestants, et mes ancêtres étaient des protestants récemment convertis. Et ils ont donc pris la décision de quitter la France et d'aller s'installer en Suisse. Voilà pourquoi je suis suisse. Et ils ont fait le bon choix au bon moment. Kéros. Vous voyez, le bon choix au bon moment, intelligent. Mais c'était pas sans risque. Ça n'était pas sans risque. Depuis Grenoble, il fallait aller jusqu'en Suisse et le voyage était long et puis c'était plein d'embûches. C'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas de. Hein, vous savez, c'était. Voilà. Mais ils ont agi au mieux pour la famille avec prudence. Ils ont réfléchi. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. C'est ça la foi aussi. Il y a un frère qui me parlait, je crois que c'est hier ou je ne sais plus, encore sur Facebook, au sujet de la planification. Il me disait, mais comment vous faites? Est-ce que vous planifiez vos journées? Est-ce que vous arrivez à vous tenir à vos plans? Parce qu'il me dit, moi avec ma femme, on fait des plans, mais on n'arrive jamais à tenir sur les plans qu'on a fait. Alors oui, bien sûr, on doit faire des plans, et avec mon épouse, on fait des plans, mais il y a jamais de plan sans risque, et puis il y a toujours des fois des choses qui viennent se mettre en travers. D'accord. Mais il faut quand même être intelligent, faire des plans, planifier. Alors il faut savoir que notre raison peut nous tromper. Nos émotions peuvent nous tromper. Nos impressions peuvent nous égarer. Il ne faut donc pas être trop impulsif. Mais si on réfléchit trop, si on réfléchit trop longtemps, en attendant d'avoir un maximum de garanties de succès, eh bien le bon moment risque peut-être d'être passé. Vous voyez ? Vous voyez ? Il faut manifester la foi. Alors ne négligez pas l'observation, ne négligez pas le discernement, l'intelligence, et ne négligez pas surtout le fait de tout remettre entre les mains du Seigneur. Pourquoi on prie? On ne prie pas pour demander à Dieu de faire changer ses plans. On le prie afin de comprendre quels sont ses plans. Qu'il nous donne le calme et la sagesse pour que nous sachions le mieux possible, nous comporter le mieux possible. Dieu nous a donné une raison, c'est-à-dire il nous a donné de la raison. Alors, raisonnons. Raisonner, c'est quoi? C'est chercher toutes les possibilités, mais avec attention, pas à la va-vite. Je me souviens qu'en 1977, j'étais en Suisse avec ma mère et mon épouse, et puis on avait laissé notre villa pendant quelques temps sans soin, et il y avait le gazon qui mesurait à peu près 60 cm, et la tondeuse, on avait une tondeuse mécanique à l'époque, voyez, en 77, et je ne pouvais pas tondre avec ça, donc je me suis décidé de descendre à Vevey, dans la ville la plus proche, pour acheter une faux. Alors j'ai acheté une faux, et puis je suis remonté à la maison avec ma faux, et puis j'y suis allé de bon cœur, mais j'arrivais pas à couper l'herbe, c'était pas possible. C'était le mois d'août, et j'avais un voisin qui était paysan, il s'appelait Monsieur Bornand. En fait, c'était deux hommes, ils étaient jumeaux, c'était des frères Bornand, et ils étaient des darbistes, c'était des gens très sages, ils vivaient là avec leur mère, une ferme magnifique, et puis il m'a vu faire ça, et il a rigolé, il est venu vers moi, il m'a dit, mais c'est pas le bon moment, il faut attendre l'automne, là l'herbe est trop verte, trop fraîche, ça va pas aller. Tout est comme ça sur terre, mes frères et sœurs, il y a un bon moment pour tout. Par exemple, ces mêmes paysans, ils savaient quand il fallait mettre les graines dans la terre. Moi, je sais pas. Moi, j'en sais rien du tout. C'est un métier. C'est les hommes ont observé la nature. C'est quand qu'il faut mettre le blé en terre. Moi, j'en sais rien du tout. C'est pas mon boulot. On doit apprendre. Il y a des tas de choses qu'on doit apprendre. Et on peut pas s'improviser comme ça. Non, non. Eux, ils savaient quand il fallait le faire. Alors, il y a toujours un bon et un mauvais moment pour tout. Alors, mes frères et sœurs, soyez intelligents. Si vous ne savez pas, demandez à ceux qui savent. N'allez pas demander à ceux qui ne savent pas. Comme je dis toujours, si tu as mal aux dents, ça ne sert à rien d'aller chez le garagiste. Pourtant, le garagiste, il est excellent, mais il est excellent dans son domaine. Par exemple, si vous ne savez pas au sujet de la Bible, comme ma sœur là qui croit que la Bible, ça porte la poisse, mais il ne faut pas qu'elle aille demander à des incrédules, ça. Il faut qu'elle vienne vers moi, qui connaît, ça fait depuis 1968 que je la lis, la Bible, tous les jours. Et je connais des millions de personnes qui la lisent. Ils n'ont pas la poisse, ils ont de temps en temps des difficultés. Il y a des moments de malheur, il y a des moments de difficultés. Bon, vous, c'est tombé au moment où vous avez acheté votre Bible. Mais voilà, c'était pas le mauvais moment pour acheter la Bible, mais vous êtes tombé dans un mauvais moment. Il n'y avait pas de raison, c'est pas la Bible qui a fait ça. Alors, lisez la Bible, parce que elle est une source extraordinaire de sagesse. Une source de sagesse extraordinaire. Remettez votre vie entre les mains de Dieu, c'est-à-dire priez. Vous voyez, quand vous priez, Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre, hein. Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, vous parlez à Dieu. Et puis quand vous lisez la Bible, c'est Dieu qui vous parle. Bien sûr que Dieu peut vous parler aussi autrement, mais c'est principalement comme cela qu'il vous parle, parce que la Bible, c'est une lettre de Dieu aux hommes, aux femmes et aux enfants. Alors, remettez votre vie dans les mains de Dieu, et puis ne restez pas paralysé par la peur de l'échec. C'est possible que vous échouiez, bon ben voilà, vous aurez échoué, ben, ça arrive à tout le monde. Mais il faut que vous vous donnez, Il faut que vous donniez toutes les chances pour réussir. Alors réfléchissez, priez, demandez conseil à ceux qui savent, et surtout ne croyez pas « Ah, ben Dieu l'a voulu », ou bien « Ah, c'est le diable qui m'a attaqué », ou bien des choses comme ça, ou c'est la faute à pas de chance. Non, 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 non. Il n'y a pas de fatalité. Ne croyez pas ça, ça paralyse. Et ça n'aide pas vraiment. Il faut que vous fassiez confiance dans le Seigneur et aussi dans les armes que Dieu vous a données. Par exemple, le pouvoir de réfléchir, le pouvoir de vous renseigner et le pouvoir de prendre des décisions. J'espère que ce message aura plu à plusieurs et que ça vous aura aidé. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus pour ce message un peu court ce soir, mais je te prie pour qu'il fasse du bien à mes frères et sœurs et qu'ils puissent s'asseoir, réfléchir et prendre les bonnes décisions. Père, je te le demande dans le nom béni de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Au revoir, à bientôt. Au revoir.